Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40 sur France Inter et l'instant M. C'est très court, mais ça en dit long.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Ni mensonge, ni tromperie, ni complot. Simplement l'histoire d'une monumentale distorsion médiatique. Jeudi 26 septembre 2019, 2h38 du matin, un incendie d'une gravité extrême se déclenche dans l'usine Lubrizol de Rouen. Jeudi 26 septembre 2019, 11h57 du matin, tombe un urgent AFP, Jacques Chirac est mort. Jusqu'au lundi suivant, il y a un an, Rouen brûlera, mais seul l'ancien président on enterrera. JT, journaux, numéros spéciaux et chaînes d'infos en pleine Chirac-mania. À seulement 130 km de Paris, où siègent les médias nationaux, des Français pourtant vivent dans l'inquiétude extrême, la puanteur et les retombées de cette fumée noire. Récit heure par heure de cette nuit terrifiante et des journées d'après par deux journalistes rouennais, correspondants sur place pour de grands organes de presse, cofondateurs d'un site d'investigation local. Ils ont vécu la catastrophe à la fois comme pro de l'info et comme père de famille.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Lubrizol, on veut la vérité, manif du 1er octobre devant la préfecture à Rouen. Gilles Triolier, Manuel Sanson, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci de vous être levés à l'aube. Merci d'avoir conduit ce matin sur l'autoroute pour rejoindre Paris et ce studio à la Maison de la Radio. Comme une odeur de soufre, illustrée par Arnaud Nebache, c'est ce vaste récit et votre enquête que publie la revue 21. On va en parler ensemble de cette catastrophe qui s'est soldée sans décès, ni blessé, ni pathologie avérée pour l'instant. Il y a une enquête en cours qui se concentre sur les origines de l'incendie qu'on ne connaît toujours pas. Mais d'abord, je voudrais vous présenter parce que on a jeté tant de discrédit et fait naître tant de soupçons au sujet des reporters indépendants ces derniers mois que je précise pour ceux qui pensent que je reçois des petits jeunes amateurs ou des dangereux militants rouges foncés pour qui le journalisme ne serait qu'un phoné, je précise que vous êtes diplômé d'école de journalisme, que vous avez passé de très nombreuses années dans les différentes rédactions de Paris-Normandie. On dit PN dans le jargon, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà, vous vous y êtes rencontrés, que vous avez écrit dans Marianne, Le Nouvel Obs, L'Express, que vous avez monté Le Poulpe, qui est ce site d'info local, et que par ailleurs, l'un d'entre vous est correspondant, c'est Manuel, de l'AFP en Seine-Maritime, et que Gilles Triolet, vous êtes correspondant du Monde en Normandie.
Tout à fait.
Alors maintenant, Le Poulpe, pourquoi Le Poulpe? C'est votre site d'info à vous, et puis ensuite on en vient à votre enquête.
Pourquoi Le Poulpe?
Ouais, Gilles Triolet.
Parce que Jean-Bernard Pouy, déjà, au niveau du nom, c'est une référence.
Une référence à un célèbre auteur de polar.
Et pourquoi on a créé ça en mai 2019? C'est parce qu'on pensait qu'il y avait un manque. Il y avait un manque de cette pratique de journalisme d'investigation dans la presse régionale. Il y avait un déficit. Nous, en tant que lecteurs, on ne s'y retrouvait pas. En tant que journaliste non plus. Ce n'était pas proposé dans la région, il y avait un créneau à prendre qui nous correspondait.
Et pourtant, et voilà. Vous êtes dans l'ouest de la France, je dirais plutôt béni des dieux et assez gâté en termes de presse, c'est-à-dire que vous faites partie des derniers départements où il y a plusieurs quotidiens régionaux.
Tout à fait.
Manuel Sanson.
Plusieurs quotidiens régionaux, mais c'est vrai qu'un déficit d'investigation, d'enquête, de papier fouillé, d'un ton un peu corrosif, d'aller chercher les informations qui dérangent. Même s'il y a plusieurs quotidiens, il y avait un manque et on essaye de combler cela.
Avec un Paris-Normandie qui a connu de multiples liquidations judiciaires et là une reprise par le groupe belge Rossel, reprise sur laquelle vous avez d'ailleurs vous-même enquêté. Donc évidemment, les quotidiens régionaux, fragilisés, et là encore plus par la crise du Covid, sont de moins en moins solides, ont de moins en moins d'équipes à mettre à disposition de l'enquête, Gilles Triolier.
Il faut de l'argent pour enquêter, il faut du temps, de l'argent, et effectivement.
Et il faut de l'indépendance.
Et aussi une certaine envie, en fait. C'est ça aussi. Je pense qu'il y a les deux questions. Il y a l'histoire des effectifs et des possibilités, en fait, de pouvoir enquêter. Et il y a aussi le fait que les médias locaux ont tendance parfois aussi à pas vouloir aller embêter les différentes structures, les différentes institutions qui sont en Normandie en fait, et donc nous voilà, on essaie de prendre ce biais-là et de
qui sont souvent annonceurs d'ailleurs de ces mêmes journaux
en fait. Et de tracer notre sillon quoi.
C'est ouais. ça, c'est ça. Alors la PQR, elle sort des infos hein, et même des grosses infos. Néanmoins, évidemment, on voit bien partout en France qu'une place hein, se libère et se crée pour ces médias d'investigation. Il y a Mediacité, site d'infos en ligne basé à Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Il y a Mars Actu à Marseille depuis 2010. Il y a le Doc à Montpellier, D'OC. Et le Poulpe, vous êtes ancré à Rouen, mais vous couvrez Le Havre, Caen, Évreux, Cherbourg, Alençon.
Tout à fait. Tout à fait. Si où il y a une bonne info, on ira la chercher sur l'ensemble des 5 départements de Normandie. On n'a pas voulu se cantonner uniquement à la métropole rouennaise.
C'est ça. Avec un petit mot quand même, votre particularité, c'est d'appeler aux lanceurs d'alerte en une du site, Manuel Sanson.
Ouais, tout à fait. On s'est dit que c'était important de pouvoir donner la possibilité aux gens, aux sources, des gens qui ont des bonnes infos, de venir directement nous les apporter de manière anonyme. Et puis après, nous, voilà.
Alors, vous garantissez des échanges ultra sécurisés.
On ne sait pas qui nous a envoyé le mail.
Voilà, exactement.
Ça, on peut le garantir, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on annonce sur le site, c'est la vérité. On ne sait pas qui nous a envoyé le mail.
Voilà.
Donc, il y a beaucoup de déchets.
Vous conseillez quand même aux gens de ne pas s'adresser à vous depuis l'ordinateur de la maison ou du bureau. Ça vous paraît le béaba ?
On préfère.
Et quand vous dites que tout n'est pas publiable, c'est que...
Ça veut dire tout simplement qu'il y a des informations qui nous arrivent et en fait qui après vérification s'avèrent être des choses fausses ou inexactes ou peu intéressantes, et donc du coup on évacue ça et on passe à autre chose en fait. Donc il y a à chaque fois, chaque message lanceur d'alerte ne donne pas lieu forcément à un sujet en fait.
Il y a plusieurs enquêtes qu'on a démarré grâce à ça quand même.
Comme quoi par exemple, Gilles Triolier ?
Comme quoi Manuel, vas-y.
Notamment Paris-Normandie justement, l'enquête sur Paris-Normandie, enfin sur la reprise de Paris-Normandie a démarré, s'est nourri aussi de différents lanceurs d'alerte qui nous ont envoyé des informations par rapport à cette opération.
Alors on va reparler de ce qui s'est passé il y a un an. Je l'ai dit dans mon introduction, l'incendie se déclenche à 2h38, 11h57, tombe un urgent AFP. Écoutez, nous sommes en direct sur la chaîne de télé France Info.
Cet important incendie qui s'est déclenché cette nuit, important incendie, alors que nous apprenons, selon une dépêche de l'agence France Presse, le décès de Jacques Chirac, l'ancien président de la République, est décédé.
Il aura fallu attendre 12 heures sur BFM TV pour qu'après une édition spéciale Chirac à minuit, il y ait un mot à nouveau sur Rouen. Les 20 heures du jeudi soir, pas mieux, seulement des brèves sur ce qui s'est passé dans votre ville. Rouen est traité entre deux sujets Chirac, absolument partout. Il faudra attendre en fait le lundi que les obsèques soient achevées pour que les 20 heures y consacrent plusieurs sujets. Comment ça a été perçu et vécu cela par les Rouennais, les pères et les mères de famille et les journalistes? Gilles Triolier.
Très mal, évidemment. Il y a une forme de... On a perçu ça comme voilà une défiance pour la province. La province est un peu secondaire. J'imagine que si l'accident s'était déroulé sur Paris, peut-être que Jacques Chirac, la mort son laissé, n'aurait pas occulté totalement comme ça un accident industriel de cette ampleur. Voilà. Moi, j'étais sur place au moment où j'étais avec le ministre Castaner devant l'usine quand la dépêche AFP est tombée. Et je l'ai vu. Les journalistes ont commencé à écouter Castaner et au bout d'un moment, ça a sonné sur les portables. Ils se sont reculés, ils ont appelé leur rédaction parisienne.
Et c'était terminé. Quelque chose dont vous ne parlez pas dans votre enquête, c'est que ça a eu un effet pervers. C'est-à-dire que comme on ne parlait pas de Rouen sur les chaînes d'infos et très peu dans les 20 heures, les gens se sont pas mal retournés vers les réseaux sociaux où ont circulé beaucoup de fake news, Manuel Sanson. Des faux communiqués, des autorités bourrées de fautes et de bêtises. Des fausses photos de poissons morts.
D'oiseaux morts.
Et de poissons morts.
Il y a eu effectivement un vide à
l'eau polluée aussi. Voilà, l'eau polluée, alors c'était faux.
Oui, l'eau potable polluée aussi.
Des rumeurs.
Je ne sais pas si c'est forcément le fait que les médias nationaux aient squeezé l'événement qui a fait que ça a développé les fake news sur les réseaux. Elles se seraient développées de toute façon. Et les médias régionaux, eux, ont fait le boulot. On continuait, les médias locaux régionaux, on peut les saluer et continuer à faire le taf pendant toute
la
journée.
Confusion d'autant plus évidente que les ministres qui se succèdent sur place, et ça vous le racontez dans votre récit heure par heure, se contredisent les uns les autres par ordre d'apparition. Christophe Castaner, vous étiez donc à ses côtés, Gilles Triolier, il était ministre de l'Intérieur, Agnès Buzyn à la Santé, Elisabeth Borne à l'Écologie.
Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Je n'ai aucun élément qui permette de penser que les fumées en particulier seraient dangereuses.
J'ai évidemment, comme tous les habitants de Rouen, dit la ville est polluée. Je ne vais pas commencer à nier l'évidence. Il y a de toute façon des parlementaires qui veulent une enquête parlementaire et je trouve ça très bien.
On peut se réjouir du fait qu'il n'y a eu aucun blessé grave. Et effectivement, il y a une odeur qui est très dérangeante, mais il n'y a pas eu de problème sanitaire.
Manuel Sanson, ça vous le racontez, vécu par les Rouennais, cette espèce d'injonction contradictoire et de message contradictoire des autorités.
Oui, il se trouve en plus que sur l'intervention d'Agnès Buzyn et d'Elisabeth Borne, elles étaient en visite ensemble, moi je couvrais ça pour l'AFP, et donc j'ai assisté en fait en direct, elles ont dit l'inverse l'une et l'autre en fait, en quelques minutes d'espace quoi en fait, et donc effectivement c'était assez étonnant, et effectivement pour les gens qui sont à Rouen et qui attendent des nouvelles et qui veulent être rassurés, enfin savoir exactement ce qui s'est passé, effectivement ça organise un grand flou et ça renforce en fait l'inquiétude des gens en fait, tout simplement.
Vous avez choisi de raconter ce qui s'est passé de manière assez étonnante, c'est presque construit comme une série, ça rappelle... C'était le but, Gilles Triolier.
Ouais, c'était le but. 21, on était d'accord avec 21, et c'était voilà l'idée d'arriver à rendre voilà ce côté dynamique, parce que voilà c'était ces premières heures et ces premiers jours ont été super denses, tout s'est mêlé.
Vous citez en référence d'ailleurs Tchernobyl, la fabuleuse série d'HBO qu'on a pu voir sur OCS.
On cite l'exemple. C'est pas la même chose, c'est une autre ampleur de catastrophe industrielle, évidemment. Mais oui, on est dans cette logique-là. Tout ce télescope, l'incendie, parce que pendant qu'on parle pendant ces heures-là, il faut lutter. Les pompiers sont engagés dans une lutte féroce contre l'incendie. Les ministres qui déboulent, l'inquiétude qui s'amplifie. Enfin, les premières heures, les premiers jours ont été très denses, le fait que voilà les médias parisiens aient squeezé l'événement,
alors,
tout se mêlait, donc il fallait raconter ça.
Le raconter comme une série, ça signifie se placer à hauteur de personnages, donc vous avez choisi des personnages, il y a un vrai casting dans votre écriture. On va écouter Coralie Moreau, elle n'est pas citée dans votre enquête, c'est l'une de nos consoeurs à France Bleu Normandie, elle vit à Rouen et elle raconte, en fait, elle entend des pétards dans son sommeil.
Et là, mon téléphone se met à biper dans tous les sens, appel en absence, message. Et en fait, ce sont des amis qui ont été réveillés et qui me disent « Attention, ça brûle, c'est dangereux, c'est du Lubrizol, faut qu'on se tire. » Donc là, j'ouvre les volets de ma chambre, je suis située au deuxième étage, et j'ai cette vue sur cet incendie incroyable, ce panache de fumée incroyable, et je me dis « Wow, c'est la merde. » Et ma rédactrice en chef me dit « Si tu peux venir, viens. » Donc j'ai quand même mis mes enfants à l'abri, hein, avant, je les ai laissés à des voisins qui partaient, eux, et je suis partie bosser.
Elle est comme vous, elle est journaliste et mère de famille.
On a fait la même chose,
on la connaît.
Ces Rouennais qui ont mis toute la famille en pyjama, vous parlez de Sylvie, par exemple, vous avez changé tous les prénoms. Voilà, de Sylvie qui a mis toute la famille en pyjama et qui s'est même arrêtée à attraper une vieille dame dans l'immeuble en face pour la coller dans la voiture. Et vous racontez, Manuel Sanson, qu'ils sont partis sans savoir où aller, mais juste en direction inverse de la fumée.
C'est ça, ouais, bah tout à fait. Effectivement, il y a des gens qui voilà, entendant les bruits dans la nuit, voyant l'énorme panache de fumée, instinct de survie entre guillemets, ont tout quitté, se sont réveillés dans la nuit, ont pris l'essentiel, c'est-à-dire les humains, les enfants, les personnes âgées, et qui ont quitté la ville le plus rapidement possible, sans effectivement trop savoir où est-ce qu'ils allaient. Notamment une personne qui a pris la 13 en direction de Paris, qui s'est arrêtée dans une station-service à 50 km de Rouen pour essayer de comprendre ce qui se passait, de suivre un peu, mais en tout
Gilles
cas.
Gilles Triolier, vous avez aussi choisi et campé des personnages qui sont à l'intérieur de l'usine, donc on voit l'incendie par leurs yeux, c'est extrêmement impressionnant. Il y a Marc, qui est de garde, qui va être le premier à sonner l'alerte, et il y a Jonas, le premier pompier à pénétrer les lieux. Ça vous permet de raconter à la fois ce qu'il y a de plus spectaculaire, et en même temps les cafouillages de ces premières heures.
Tout à fait, en détail, oui. Il nous fallait ces témoignages-là, qu'on ait ce parallèle entre voilà la difficulté pour eux d'intervenir, pour le côté voilà le côté de l'intervention technique des pompiers, en même temps l'aspect politique qui se développait. Il fallait qu'on ait pas uniquement cet aspect politique ou cet aspect généraliste, il fallait qu'on puisse rentrer dans le détail de l'intervention des soldats du feu. Évidemment.
Et c'est évidemment terrifiant. Il y a aussi le militant de France Nature Environnement,
l'associatif, ouais,
l'associatif qui se retrouve d'un seul coup propulsé devant les micros et les caméras.
En général, c'est un des porte-parole voilà, de FNE, donc il occupe ce rôle-là souvent, et c'est quelqu'un qui est très renseigné, donc qui a vécu les choses de l'intérieur aussi, et qui avait des choses à raconter. C'est aussi pour ça qu'on a été le chercher. On a essayé de pas uniquement uniquement de prendre des kidam qui auraient pu avoir un avis intéressant, mais pas global. On a essayé de trouver des personnes qui maîtrisaient, qui maîtrisaient
l'expert, on va dire, sur la thématique aussi du risque industriel, quoi.
C'est ça. Il y a Karim, le conducteur de bus, qui sera pris de migraines et de vomissements. Il y a Quentin, le jeune agriculteur bio, qui voit sa première récolte entièrement couverte d'un bizarre jus noir au lendemain de l'incendie. Et à travers eux, on se rend compte vraiment que moi, par exemple, à Paris, cette semaine-là, je n'ai absolument pas compris à quel point tout ça était impressionnant et anxiogène. Manuel Sanson, vous racontez cette puanteur qui pèse sur la ville pendant des jours et des jours.
Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'était... on va dire le lendemain, une fois que le feu a été éteint, c'est vraiment ça qui persistait et qui restait et qui aussi nourrissait le climat d'anxiété générale. C'est-à-dire qu'effectivement, toute la ville, des communes aussi plus loin que la seule ville de Rouen, était voilà remplie d'une odeur d'œufs pourris, enfin voilà, quelque chose de nauséabond en fait. Et effectivement, ça s'est resté pendant très longtemps et encore même il y a quelques semaines ou quelques mois, il y avait encore des odeurs qui étaient là, surtout dans les quartiers vraiment au bord de l'usine. En fait, il y a des gens qui ont vécu plusieurs mois, quasiment un an, dans des odeurs de
pendant
de
l'évacuation en fait, des fûts qui ont cramé, ça a créé des très mauvaises odeurs qui ont perduré très longtemps. Ça s'est pas cantonné aux premières semaines.
J'ai trié au bout de 5 jours, les médias nationaux ont commencé à se réveiller. Et maintenant, qui suit l'affaire? Qui en parle? Parce qu'il y a une enquête en cours. Vous?
Oui.
On en est où?
Au niveau des médias nationaux, Mediapart, avec qui on bosse, travaille toujours sur le sujet. Maintenant, effectivement, il y a eu les grands médias ont sorti des choses pour les 1 an, la date d'anniversaire. Mais effectivement, localement, ceux qui continuent à chercher des infos et à aller voir comment ça s'est passé, notamment entre les relations entre autorités et industriels, parce que c'est ça le cœur du problème. Voilà. Le contrôle, plus ou moins efficace, laxisme ou pas. Donc, sur cet aspect-là, il n'y a que nous en région qui bossons là-dessus.
C'est-à-dire que Lubrizol avait été plusieurs fois condamné et relativement faible condamné ou rappelé enfin, à l'ordre.
Une fois condamné en justice, entre guillemets, mais effectivement très faiblement, puisque je crois que c'était une amende de 4000 euros pour le précédent accident qui avait eu lieu en 2013. Mais c'est surtout qu'effectivement, le Poulpe a raconté la manière dont en fait l'usine a été suivie, contrôlée pendant plusieurs années avant le drame du 26. Et on voit qu'effectivement, qu'il y a un certain laxisme en fait des autorités de contrôle, une certaine mensuétude aussi dans les sanctions qui interviennent par la suite. Et voilà, effectivement, ça c'est un point crucial dans cette affaire-là sur Lubrizol. Ouais.
Vous interrogez aussi l'enquête sanitaire qui est menée, Gilles Triolier.
Qui est menée actuellement, mais qui n'est malheureusement qu'une enquête de ressenti. C'est-à-dire que voilà, c'est un questionnaire qui est adressé aux gens, à la population, un an après, un petit peu tardif. Et il n'y a pas eu de campagne de prélèvement de sang ou de cheveux ou d'urine à l'origine qui aurait permis de constituer une base de référence et à terme de pouvoir voir l'incidence sur d'éventuelles maladies, ça n'a pas été fait.
Et alors, il y a quelque chose de très étrange quand on lit vos pages, Gilles Triolier et Emmanuel Sanson, c'est qu'il y a comme une espèce de quelque chose d'avant-gardiste sur des images qui médiatiquement nous frapperont des mois et des mois plus tard. D'abord, cet incident, on relit ces pages et d'un seul coup, on voit le Liban, on voit Beyrouth, et c'est encore plus impressionnant. Et puis surtout, vous racontez que déjà, à ce moment-là, on s'est posé la question masque ou pas masque, et que tout le monde s'est pris les pieds dans le tapis sur ce qu'il fallait conseiller aux Rouennais, masque ou pas masque, question qui deviendra évidemment
cruciale.
Voilà.
Certains en ont porté à l'époque, mais voilà, c'était une image qu'on a pu observer dans les rues de Rouen, mais c'était pas majoritaire.
Surtout dans les premiers jours,
c'était pas majoritaire, mais il y a eu quand même une petite ruée sur certaines pharmacies du centre-ville ce jour-là, des gens qui d'eux-mêmes voulaient se protéger. Oui, tout à fait.
Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à la maison de la radio.
Merci à vous.
Depuis Rouen, le Poulpe, c'est en ligne, c'est sur abonnement, mais vous donnez ce que vous voulez si vous y croyez et si vous voulez financer le projet. Et évidemment, votre enquête est à lire dans la revue 21. Elle s'intitule « Comme une odeur de soufre ». C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebey.
Bonjour Sainte de Villers.
Alors, dans Grand Bien vous fasse.
En 50 ans, nous avons perdu environ 1h30 de sommeil. Nous verrons quelles sont les principales causes de cette épidémie de mauvais sommeil et d'insomnie. Quels sont les moyens naturels pour mieux dormir? Comment éviter les somnifères qui agissent comme des anesthésiques et qui peuvent nous rendre dépendants? Nous attendons toutes vos questions sur le sommeil au 01 45 24 7000.
Je prédis un standard sursaturé, mon cher Ali.